Nous sommes le vendredi 10 novembre, bienvenue dans votre revue de presse JV. Aujourd'hui, je suis furibard, ouais, je suis colère, je suis pas bien, j'ai le blues. Ouais, bah je vous explique tout ça après le générique. Bienvenue à toutes et tous à la revue de presse JV. Alors oui, comme je vous l'ai dit, je suis colère, je suis furibard. Pourquoi ça? Eh ben tout simplement puisque le serveur dont dépend PodCloud, d'ailleurs ce sont des gens très charmants que je tiens à saluer pour leur réactivité, on a fait quelques blagounettes sur Twitter, et pour supporter notre malheur bien évidemment. Pourquoi? Puisque hier, si vous écoutez l'émission via le flux RSS, que ce soit sur iTunes, sur Deezer ou que sais-je, eh ben vous avez vu que l'édition d'hier est arrivée extrêmement en retard. Et ce n'est point ma faute! Ce n'est point ma faute, chers amis, puisque je m'étais levé à 5h30 comme chaque matin, l'édition était prête, et j'étais colère, j'ai tapé contre les murs, j'en ai même eu des gaz, hein, voilà, pour tout vous dire, excusez-moi d'être brute de pomme, brute de décoffrage comme ceci, mais voilà, j'étais pas bien. Pourquoi? Puisque l'émission était prête et je n'ai pas pu vous la servir sur un plateau d'argent comme d'habitude. Donc, pour me faire pardonner, en tout cas pour ceux qui me suivent sur Twitter et Facebook, j'ai mis l'émission sur YouTube, hein, comme d'habitude, elle était prête avant 7h, sur le flux RSS, donc où je passe par PodCloud, bah je ne pouvais pas. Les serveurs étaient down, hein, comme on dit dans la Silicon Valley, donc j'étais là comme un con, il n'y a pas d'autre mot, comme un pauvre glandu, comme une crotte au cul, j'étais là, voilà, F5, de 5h30 jusqu'à 1h très avancée, et donc vous avez reçu votre édition en retard, donc je m'en excuse, le compte Twitter est là, fait foi, vous verrez ma discussion, mes échanges de gifs rigolo lol avec PodCloud. Donc ce souci indépendant de ma volonté, et qui a d'ailleurs mis tout un tas de boîtes dans la panade une grosse partie de la journée, le hashtag OVHGate était en top, en Trender Topics, en top tweet, car OVH est le nom de cette boîte qui abrite ses serveurs, et PodCloud n'est pas la seule entreprise à faire appel à leurs services. J'ai vu des Interflora, j'ai vu des sites de services, j'ai vu même, enfin plein même de grosses boîtes hurler sur internet ne sachant plus que faire. Qui suis-je moi, petit podcasteur, pour me plaindre? Mais c'est par rapport à vous, cher public. Je sais que la plupart d'entre vous écoutent l'émission sur iTunes. Et moi, ça m'a vachement embêté quand même, puisque 95% de mon audience se fait via iTunes. Et je me dis que ceux qui me suivent pas sur Twitter doivent se dire « Putain, l'enfoiré, il a pas tenu parole, voilà, il a pas posté son émission, il s'est pas levé, ou il a eu la flemme. » Voilà, il l'a fait rapidement la matinée. Non, non, c'était prêt à 5h30 du matin. Dites-le autour de vous, criez-le, appelez BFM TV, faisons bouger la France. J'essaye de joindre en ce moment Emmanuel Macron, mais enfin, il ne répond pas. Le show continue, je m'imagine, tel un Elvis Presley, acculé, fatigué, en boule dans sa loge, en train de vomir sa dernière vodka, et son impresario qui lui dit « Elvis, va sur scène, ton public t'attend ». Et Elvis courageusement lui dit
« Oh yeah, tu as raison, John !»
Ouais, parce qu'il s'appelait John, le mec.
« J'y retourne tout de suite !»
Je suis dans cet état d'esprit, et donc, voici pour vous, rien que pour vous, les premières news de la journée. On le croyait en marge, on le croyait au bord de la société, on le croyait faire des petites exhibitions comme ça, dans un coin de couloir, à Châtelet, à faire chauffer des petits cafés sur demande, à faire des petites flamèches à qui veut. Eh ben, non, Harry Potter va très bien, il revient sur console et mobile, et c'est Jarod qui nous dit ça sur Gamecult. Warner Bros. Interactive Entertainment a décidé de relancer la machine Harry Potter au moyen de nouvelles adaptations prévues sur le marché des consoles, ainsi que sur les appareils mobiles, nous dit Gamecult. Cult. Un tout nouveau label baptisé Portkey Games a même été créé à cet effet. Ça ne rigole plus, Portkey Games sera chargé de développer des nouveaux titres basés sur l'œuvre de J.K. Rowling, à savoir Harry Potter, mais aussi Les Animaux Fantastiques, qui fait partie de la même franchise et dont le second film, sur un total de 5 prévus, sortira en 2018. Ces jeux mettront en scène des visages inédits, mais aussi bien sûr des personnages familiers à différentes époques de leur vie. Warner n'a pas indiqué quand aura lieu la sortie du premier jeu console issu de cette nouvelle vague, mais en rappelant quand même que l'éditeur avait sorti Lego Harry Potter Collection l'an dernier sur PlayStation 4. Côté mobile, il va falloir s'attendre, je pense, à du très lourd, puisque Jarod nous indique que Warner s'est fait un plaisir de mettre la main sur Niantic, le développeur de Pokémon Go. Le Pokémon Go, celui qui a été un phénomène il n'y a pas si longtemps que ça, pour s'occuper d'un jeu en réalité augmentée nommé Harry Potter Wizards Unit, et qui sera donc développé conjointement hein, avec Warner Bros. Games San Francisco. Alors là, je dis à mon épouse, Natacha, prépare ton smartphone, parce qu'à mon avis, là, ça va booster. Ça va fuser dans tous les sens, et ça va magicier dans tous les coins de rue. Magicier, ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça sonne bien en bouche. Donc les fans du magicien seront contents. Alors apparemment, d'après ce que j'ai lu, J.K. Rowling ne va pas participer au scénario de ses nouvelles aventures, mais si c'est pas trop mal fichu, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, quelque part. Alors ça va peut-être en enquiquiner certains, mais la revue de presse JV, c'est un peu la casa de la more, tout le monde est accepté, pas de chichi ici, tout le monde s'aime, de l'appli mobile hyper casual au jeu le plus obscur et hardcore sur une console japonaise qui a été éditée en 3 exemplaires, tout le monde s'aime. Et donc on va parler de Call of Duty. Certes, ça ne plaît pas à tout le monde, mais ne soyons pas sectaires les amis, ne soyons pas sectaires. Le dernier Call of Duty, World War II, qui remonte bien la pente hein, par rapport à l'épisode de l'année dernière un peu partout dans le monde, et ben fonctionne pas trop mal au Japon également. Famitsu, le célèbre magazine japonais, nous dit que 170 000 unités, sans compter les téléchargements, ont été écoulées lors de la première semaine de commercialisation de ce nouveau Call of. Pas de quoi encore faire peur aux résultats qu'avait pu obtenir en 2012 Black Ops 3, hein, avec un démarrage à 223 000 ventes, mais quand même, c'est bien parti, et ce Call of semble vraiment se réconcilier avec ses fans, avec les joueurs, avec l'univers qui l'entoure. On peut s'en moquer, on peut s'en tartiner les miches, mais bah, c'est quand même une info importante, et qui dit info importante, dit revue de presse JV, fatalement. Nous avons parlé à plusieurs reprises dans cette émission d'un sujet qui me tient à cœur, à savoir la place des femmes dans le jeu vidéo. Rappelons ce chiffre assez triste dont nous parlions dans l'édition d'hier, justement. Seulement 15% des personnes employées dans le JV sont des femmes. Et c'est dans ce contexte que pixellemonde.fr publie un article titré « Joyce Weisbecker, pionnière méconnue de la programmation de jeux vidéo ». Signé par William Oduro, l'article nous dit « Une récente enquête historique du site américain Co.design révèle que la première programmeuse professionnelle, Joyce Weisbecker, a fait du jeu vidéo son métier dès 1976. Une découverte d'autant plus significative que les premières consoles programmables datent de… » Bah 1976, justement. Née en 1958 dans le New Jersey, Joyce Weisbecker n'a que 17 ans lorsqu'elle signe ses premiers jeux vidéo rémunérés pour le compte de RCA. Cet ancien géant américain du mobilier audio-vidéo s'apprête à lancer la Studio 2, console qui, en dépit de son échec commercial, restera avec la Fairchild Channel F comme la première à utiliser des jeux interchangeables. Dès ses 16 ans, Joyce Weisbecker a déjà conçu et programmé des jeux. Sur donc la console Studio 2, elle signe ses premiers jeux rémunérés. Comme sur toutes les consoles de l'époque, ils sont uniquement en noir et blanc, mais il ne s'agit pas de simples de clones de Pong ou de jeux de raquettes similaires, et pour l'époque, il s'agit d'un immense pas en avant en matière de créativité. Jeux de quiz, de courses, d'action, etc. Rendu obsolète par la sortie en 1977 de la fameuse Atari 2600, une concurrente capable d'afficher révolution pour l'époque des jeux minimalistes en couleur. RCA donc cesse la production de sa console en 78, ce qui marque également la fin de sa courte carrière de pionnière. L'article se termine en nous disant que suite à cette fin de la console Studio 2, elle reprend ses études, elle obtient en 1980 un double diplôme en ingénierie et en sciences actuarielles, elle se lance ensuite dans une carrière d'actuaire puis d'ingénieur radar. Peu intéressée par le titre de première femme conceptrice, elle préfère se voir comme la pionnière du jeu indépendant. Récemment, elle envisageait d'ailleurs de se replonger dans la programmation de jeux vidéo, mais narratif cette fois-ci. Je vous conseille fortement d'aller lire cet article de William Oduro sur pixel.fr Le Monde, sachant que là, je vous ai cité les passages qui m'ont marqué, mais bien sûr, l'article est beaucoup plus fourni avec moult détails, saisies d'écran, documents d'époque. C'est passionnant et donc bravo à William Oduro pour ce papier qui nous révèle donc l'existence de Joyce Weisbecker pionnière du jeu vidéo et je pense qu'on est beaucoup à la découvrir aujourd'hui. Allez, je vais taper mon petit coup de gueule, je vais claquer ma petite colère, une fois encore, car ça m'est déjà arrivé, je vous en avais parlé il y a quelques émissions de cela, jeuxvideo.com, oh qu'ils sont vilains, qui spoil carrément des secrets de Super Mario Odyssey dans l'intitulé du titre de la news. Le titre de la news, dans la colonne principale, hein, en home du site, vous spoil méchamment. Eh ben, des surprises de Super Mario Odyssey. Ceux qui me suivent le savent, j'y jouerai ce Noël, donc je n'ai pas encore eu le temps de poser mes mains sur ce Mario qui, bon, en tant que Mario sexuel, hein, que j'attends comme un fou. Alors, oui, je précise à nouveau que j'ai bien compris que ce Mario Odyssey était truffé de centaines de secrets absolument fantastiques et que c'est pas deux ou trois révélations, et surtout pas concernant la fin et ce qui se passe après la fin, justement, la vraie seconde partie du jeu. Tant que ça, c'est pas révélé, bien sûr, c'est pas très grave, mais quand même, voilà, j'ai eu la connaissance d'un personnage que je n'imaginais pas du tout dans ce Super Mario Odyssey, et tout ça, ça m'a été grillé par une news posée comme ça, innocemment, entre deux autres news, on va dire lambda, sur la home de jeuxvideo.com. J'ai l'impression d'être le seul à râler là-dessus. Moi, je trouve ça hyper énervant. Alors, je n'en veux pas aux rédacteurs, hein, qui globalement font quand même un super boulot, et surtout qu'en ce moment, avec la polémique dont ils ne sont pour rien sur le forum 1825, ils doivent déjà être bien embêtés. Donc, moi, avec ma petite râlerie de spoil, j'imagine que ça doit leur toucher une moustache sans faire bouger l'autre. Mais quand même, c'est rageant, c'est rageant. Donc, est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé sur d'autres sites d'ailleurs? Ou un magazine, que sais-je, un podcast, même un podcast, peut-être même moi, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est rageant, bon Dieu que c'est rageant. Donc voilà, c'était un petit coup de gueule qui ne servait à rien. Mais parfois, il est bon aussi que le cœur, cette rage de vaincre, ce qui nous anime tous en tant qu'êtres humains, quelque part, reprenne droit de cité, reprenne la place, prenne position, et je ne sais plus quoi dire. Donc, je vais me reprendre un peu de café, et on se retrouve tout de suite après ça. Parlons un petit peu de lecture sur papier. Alors, c'est pas très écologique, tout ça, vous me direz, mais je pense que certains d'entre vous sont très attachés à ce rapport charnel qu'ils entretenaient avec le papier. C'est quand même quelque chose de particulier. Ça ne vous regarde que vous et le papier, bien sûr. Je ne vais pas savoir le reste, mais je peux comprendre votre attachement à ce support ancestral, hein, antique. J'ai appris sur l'agence française du jeu vidéo, la FJV, qu'un bouquin allait sortir intitulé « Jeux vidéo, l'industrie culturelle du 21e siècle ?» écrit par Jean-Pierre Benghosi et Philippe Chantepie. Monsieur Benghosi est professeur à l'école polytechnique et membre du collège de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, Fichtre. Faut une carte de visite au format A4 pour caser tout ça. Et Philippe Chantepie est inspecteur général des affaires culturelles au ministère de la Culture. Alors attention, on se met droit, on chante la Marseillaise. Il est chercheur associé à la chaire Innovation et régulation des services numériques de l'école polytechnique Télécom ParisTech Orange. Enfin, autrement dit, de gros bonnets, hein, comme on dit à la COGIP. Et donc, sur quoi va porter ce bouquin? On nous dit que le jeu vidéo s'est imposé au tournant du siècle comme un secteur majeur aux côtés des industries culturelles traditionnelles que sont l'édition de livres, la musique enregistrée, le cinéma ou encore la télévision. S'appuyant sur un ressort anthropologique et porté par une vague d'innovation technologique, la pratique ludique s'est renouvelée en quelques décennies pour s'adapter à de nouveaux terminaux de lecture, de la console de salon au téléphone mobile. Le jeu vidéo est devenu omniprésent. Par leur dimension mondiale, globale et omniprésente, les jeux vidéo pourraient-ils s'imposer comme l'industrie culturelle du siècle? Et donc c'est de ce sujet que va traiter ce bouquin à travers 6 chapitres, une conclusion, une introduction, une quatrième de couve, une belle couverture qui claque bien. Bref, je vous mettrai le lien sur le blog et sur la description de la vidéo YouTube. Donc jeux vidéo, l'industrie culturelle du 21e siècle, c'est déjà disponible au prix de 18€. C'est dispo normalement dans toutes les bonnes librairies, c'est dispo sur Amazon. Je viens de vérifier, je viens de cliquer, je ne recule devant aucun effort pour vous, c'est validé. Et l'éditeur, bah c'est tout simplement le ministère de la Culture. Donc autant dire que ça ne rigole pas, hein. C'est pas la collection Harlequin, les mecs. on va rester dans le papier avec le fameux magazine britannique Edge, de renommée mondiale. Edge qui fête dignement le 30e anniversaire de Final Fantasy, puisqu'il met en circulation son numéro 314 avec 15 couvertures différentes. 15 couvertures différentes, chacune ramenant un des épisodes canoniques de Final Fantasy. On peut le trouver soit dans une librairie qui vous fait de l'import, hein, tout simplement, ou dans les kiosques si vous êtes directement présent en Angleterre. Trouvez au petit bonheur la chance l'une des couves, ou vous pouvez bien évidemment leur commander directement sur leur site myfavoritemagazines.co.uk. Tout le pack de ces 15 numéros qui sont identiques, hein, totalement identiques, mais avec une couverture différente. Le tout placé dans un petit coffret, ma foi, fort classe. Il vous en coûtera la somme modique de 66,99€ pour avoir ces 15 numéros. Alors certains regretteront, comme on me l'a déjà signalé sur les réseaux sociaux, que effectivement, bon, 15 fois le même numéro, juste avec une couve qui change, c'est pas non plus le Pérou. Y a pas de quoi non plus crier au génie, mais je sais très certainement que certains d'entre vous, qui ont les moyens, hein, parce qu'il faut les avoir, qui collectionnent un peu tout ce qui tourne autour de Final Fantasy, se procureront peut-être ce pack un petit peu spécial. En tout cas, voilà, vous êtes au courant maintenant. J'ai une totale confiance en votre discernement et à votre capacité à prendre la bonne décision au bon moment. Et c'est ainsi que se termine cette édition du vendredi 10 novembre 2017. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve lundi pour une nouvelle semaine de Revue de Presse JV. Et on se retrouve dès demain matin pour les tipeurs, pour l'édition exclusive du samedi, avec des news 100% fraîches pêchées du matin. Car vous avez la possibilité de m'aider sur Tipeee, tipeee.com/la-revue-de-presse-jv, la possibilité de m'aider à améliorer l'émission et aussi ma situation. J'explique tout sur cette page Tipeee, n'hésitez pas, il y a effectivement un épisode bonus chaque samedi matin, rien que pour les tipeurs concernés, et aussi la possibilité de participer à la grande revue de presse JV chaque mois à mes côtés sur Skype, derrière le micro. Oh mon Dieu que c'est beau! N'oubliez pas non plus que l'émission est disponible H24 et 7 jours sur 7 sur iTunes, Podcloud, Deezer, YouTube. Vous tapez la revue de presse JV hein, sur le moteur de recherche de YouTube et vous tombez tout de suite dessus. N'hésitez pas à réagir, à venir me parler sur @revue de presse JV tout collé, ça c'est sur Twitter, mais aussi la page Facebook et mon Twitter perso chez _Bruno. Partagez un max, mettez-moi des belles petites étoiles et des commentaires sur iTunes. N'oubliez pas le blog, la revue de presse jv.wordpress.com, où tous les liens sont centralisés. Il est désormais le temps, oui, grand temps pour moi de vous dire bonne journée, bon week-end, à lundi, à demain matin pour les tipeurs, et que vous dire de plus, vive le jeu vidéo, bye bye et à très vite.